France Inter.
Aujourd'hui, un vent de soulèvement raconté par
Thomas Lacoste, réalisateur,
et Ludivine Bantini, historienne.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Jadis, il y eut un géant hanté, fils de l'eau et de la terre, fruit de l'amour de Gaïa, matrice de toutes choses, celle qui accouche du ciel et du temps, et de Poséidon, dieu des mers, des sources et des océans, celui qui ébranle le sol. Hanté règne sur les terres berbères et le royaume de Libye, il est détenteur d'une force tellurique, don de sa mère. Un jour, Hercule croise son chemin, une lutte s'engage, Hercule plaque le géant au sol, mais dès qu'Hanté touche terre, sa force décuple, il se déprend de son adversaire. Alors pour le vaincre, Hercule l'arrache au sol, le tient à bout de bras dans les airs et l'étrangle jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce que nous raconte ce mythe, c'est l'histoire d'un violent arrachement à la terre, un arrachement jusqu'à l'étouffement. Notre époque est semblable à l'agonie d'Hanté. Dans un Occident grisé par sa puissance herculéenne, nous sommes captifs d'une existence hors sol, d'un monde où la terre, l'eau et le ciel sont devenus marchandises. Pour survivre à l'étouffement annoncé, il est grand temps de s'ancrer au sol pour mener une lutte terre à terre. Telle fut l'intuition qui a conduit à l'émergence des soulèvements de la Terre. De COP en marche massive, de camp Action Climat au rapport du GIEC, nous ne sommes pas parvenus à infléchir significativement le ravage en cours. Et face à cette impasse, nous faisons le pari d'une écologie terre à terre qui s'ancre dans des luttes foncières et territoriales. Extrait de l'ouvrage Première secousse, publié en 2024 aux éditions de La Fabrique.
Avec les soulèvements, depuis Notre-Dame-des-Landes, on a déjà obtenu d'autres reculs sur les bassines, peut-être en ce moment même sur la 69. Il y a un certain nombre de choses qui se passent et les soulèvements sont un peu une sorte de liant, permettent une sorte de cristallisation collective de plein de petites sources comme ça d'espoir qui nous permettent de sortir de l'impuissance collective dans laquelle la répression et le mépris politique auquel on fait face nous plongent depuis une vingtaine d'années.
Ludivine Bantini et Thomas Lacoste, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. On entendait à l'instant un extrait de votre film Thomas Lacoste, Soulèvement, qui sort donc mercredi sur les écrans. C'est le portrait de femmes et d'hommes de toutes les générations qui sont en lutte, donc un peu partout en France, et qui ont engagé de nouveaux liens avec le vivant. Comment est-ce que votre curiosité initiale pour ce mouvement, Thomas Lacoste, s'est progressivement justement transformée en projet de film? Et à quel moment est-ce que vous avez compris que vous teniez là une vraie matière cinématographique?
Alors, on va dire que j'ai toujours eu une acuité particulière à ce qui s'inventait de politique, tout sur ici ou là, sur nos territoires ou ailleurs, tout particulièrement quand c'était porté par la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est le printemps 23, un moment où un État, en l'occurrence le nôtre, État français, décide de criminaliser ce jeune mouvement, donc né en janvier 21 à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quand donc cet État décide de criminaliser aussi fortement, donc avec d'abord la répression de Sainte-Soline, puis deux vagues d'arrestations perpétrées par une des polices antiterroristes françaises, et au lendemain desquelles on aura un ministre de l'Intérieur qui annoncera la dissolution toute relative de ce mouvement, puisqu'elle va être cassée quelques mois plus tard par le Conseil d'État, que je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire et à questionner aussi de notre société, savoir est-ce bien raisonnable quand une société se met à criminaliser sa jeunesse, quand précisément celle-ci est affairée avec grande justesse à tenter de nous sortir collectivement d'une chausse-trappe assez conséquente.
Ludivine Bantini, vous qui êtes historienne, justement, est-ce qu'on peut revenir un instant précisément à cette naissance des soulèvements de la Terre? Parce que Notre-Dame-des-Landes, ça a été vraiment le lieu fondateur du mouvement au départ?
Oui, ça a été un des lieux fondateurs, en effet, même si, le film le montre d'ailleurs très bien, il y a une grande dispersion territoriale des soulèvements, et il y a une imbrication de différents mouvements, de différentes révoltes, luttes, engagements, qui rendent la chose extrêmement politique. politique, et y compris par contraste avec cette criminalisation, ces étiquetages politiques de la part du ministère de l'Intérieur de l'époque de la tentative de dissolution, Gérald Darmanin, quand il parlait d'éco-terrorisme, il y a ce contraste considérable avec cette dimension-là, et l'intelligence et je dirais aussi la beauté politique de ce qui est montré dans le film, de ces soulèvements, comme on l'a entendu dans l'extrait de l'ouvrage que vous avez lu, hein, il est question d'arrachement, donc il est vraiment question de bien commun qu'on protège, et ça, ce sont des engagements de plus longue date, que les soulèvements de la Terre viennent à la fois incarner, mais en réseau, en fait, avec des collectifs extrêmement vastes, c'est pas une organisation.
C'est ça.
Voilà, il y a des syndicats, il y a des associations, c'est vraiment un mouvement, dans tous les sens du terme, hein. C'est vraiment se mettre en mouvement, il y a un grand élan qui est profondément politique, on y reviendra, et qui a une grande justesse aussi dans ce rapport au vivant.
Ouais, donc il y a une pluralité d'héritages, effectivement, hein, qui viennent à la fois du monde paysan, du monde féministe, naturaliste, climatique, tout ça se mélange finalement, et ça enrichit mutuellement aussi ce mouvement-là.
Absolument, d'ailleurs... Je pense qu'on peut vraiment inviter, y compris les détracteurs ou des soulèvements de la Terre qui s'arrêtent uniquement aux propos de l'État, ou les personnes qui connaissent pas très bien et qui voient ça seulement au prisme des médias, de certains médias, à aller voir le film. Parce que voilà, c'est intéressant de voir combien éventuellement cette vision, ces opinions peuvent évoluer. Parce que comme vous le soulignez très bien, en fait, il y a une sorte de creuset de mouvements, moi, qui me font remonter même très très loin dans le temps,
oui.
Même si ce sont des généalogies en partie inconscientes. Mais puisqu'il est question de défendre les communs, les biens communs, un certain rapport aux manières d'habiter, une manière d'habiter par le droit d'usage et pas uniquement la propriété lucrative qui sert à toute force à rentabiliser, à marchandiser, à faire du profit, bah on peut remonter à des temps
jusqu'où
anciens.
Vous pensez à quoi,
alors,
par
moi,
exemple?
Moi, je pense, par exemple, à ce qui existe au moins depuis le Moyen-Âge, mais on peut encore remonter au-delà. Hein. Mais justement, cette idée des communaux, vous voyez, ce qu'on appelait les communaux, qui n'étaient pas seulement des terrains qu'on pouvait utiliser de manière collective, par des communautés villageoises,
en fait,
ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, mais ça pouvait être des outils, ça pouvait être des lieux, ça pouvait être un moulin, un four, un pressoir, et où il y avait une véritable démocratie aussi. D'ailleurs, les femmes, comme les hommes, participer à des assemblées pour déterminer les usages collectifs qu'on pourrait faire des communs. Et puis on peut passer par la commune de Paris. Le film m'a beaucoup fait penser justement à cette, par exemple, à des protagonistes comme le géographe libertaire Élisée Reclus,
oui.
Qui a une infinie sensibilité justement à ce qu'il appelait l'œcumène. Il y a plein d'échos avec ce que disent les soulèvements de la Terre et ce que dit le film de Thomas Lacoste, Soulèvement. L'œcumène, l'idée de protéger le vivant, de ne pas être des vampires, de ne pas être dans la prédation. Et c'est ça aussi toute l'histoire des communs que l'on trouve jusqu'à aujourd'hui dans d'autres zones du monde, comme le Chiapas, par exemple, au Mexique. Mais je dirais qu'au fond, pour répondre en une phrase à votre question, c'est une histoire de l'humanité. Parce que la dimension vraiment de la propriété privée à des fins notamment lucratives, extractivistes, productivistes. C'est un tout petit segment chronologique dans l'histoire de l'humanité qui a été longtemps composé de communautés qui avaient le souci de prendre soin du vivant.
Et Thomas Lacoste, c'est aussi une façon de rappeler que les soulèvements de la Terre, c'est pas que Sainte-Soline non plus ou les méga-bassines, hein, parce qu'on associe aussi énormément ce mouvement-là à cet événement. Mais là, on voit une diversité de luttes absolument partout sur le territoire et qui racontent aussi hein, toute cette diversité des luttes sociales.
Oui, tout à fait. Il y avait cette envie avec le film de montrer effectivement la richesse de composition que vous venez de souligner, mais aussi leur façon d'habiter extrêmement conséquemment l'ensemble de nos territoires et de se lier à ces territoires, de se lier d'une mille une façon, hein, bien sûr en les habitant, mais en y développant des savoir-faire extrêmement précis qui sont très souvent mis en partage au sein du mouvement, mais également en épaississant de mille une relations leur existence, ce qui leur donne une une épaisseur de vie, une conséquence d'être et des puissances d'agir extrêmement fortes qui leur permettent, en suivant ou dans le même temps, d'habiter très conséquemment leur lutte.
On va écouter un extrait de votre documentaire, Thomas Lacoste, autour d'une lutte sur le glacier de la Gironde. Alors, on monte très très haut. Hein. C'était même d'ailleurs la ZAD la plus haute d'Europe, à 3400 mètres. Et on va écouter une intervenante, justement, dans votre film, pour en discuter juste avec vous après.
Ce qui s'est passé en octobre 2023, c'est que la SATA, donc l'aménageur du projet, a commencé les travaux sur le glacier. Donc en une semaine, on a constitué une petite équipe pour monter là-haut. Donc on est arrivé le samedi, on a monté notre campement. Et le lundi, l'hélicoptère des travaux en fait arrivait. Nous, on était positionnés sur le rognon rocheux, qui est une sorte d'îlot au milieu du glacier. C'est le seul endroit où l'hélico pouvait atterrir, donc il n'a pas atterri. Il a fait demi-tour et puis nous, on est resté là une semaine. Et en fin de semaine, quand la neige est arrivée pour prendre le relais, on est reparti et le glacier était protégé de tous travaux pour l'hiver, quoi.
Voilà, l'objectif était de s'opposer à un chantier de téléphérique. Et il faut le faire, hein, monter une ZAD à 3400 mètres d'altitude, Thomas Lacoste.
Oui, c'était une aventure assez, enfin très forte. Ce qui est intéressant, c'est là encore, c'est de voir comment ces luttes composent aussi avec, enfin toujours à partir du territoire. Là, en l'occurrence, des guides participaient à cette mobilisation.
Des gens qui avaient jamais manifesté pour certains, hein, c'est ce qui est rappelé d'ailleurs assez régulièrement.
Ouais. Écoute, voilà, et que avec cette notion toujours de surtout ne pas être hors sol et donc très très inscrit à la fois sur les territoires, mais aussi en lien avec l'ensemble des populations. Et c'est vrai que quand les soulèvements voilà viennent en renfort sur une lutte, c'est toujours à la demande de ces territoires. Et c'est vrai que cette aventure-là était particulière parce qu'effectivement très 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 haute dans un milieu relativement hostile pour la vie.
C'est pas des lieux en ville normalement. Hein.
C'est ça.
Donc
exactement.
S'installer sur une semaine, c'est un sacré enjeu. Ludivine Bantini, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée dans le film du partage concret des compétences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des savoir-faire techniques, mais il y a aussi des connaissances autour du vivant et puis des stratégies politiques. Tout ça s'entremêle pour former la lutte.
Oui, c'est très passionnant de ce point de vue. On apprend beaucoup. Comme je le disais, ce film m'apparaît de part en part politique, mais dans un sens qui est extrêmement émancipateur. C'est pas un sens réducteur de la chose politique. Il y a une grande intelligence, vraiment une grande sensibilité aussi, une intelligence sensible, parce qu'à chaque fois, il s'agit d'expériences sensibles qui sont très pensées, il y a des formes de réflexion et je dirais même de réflexivité politique, au sens où on s'interroge sur la place qu'on occupe et pourquoi on mène ces luttes, parce qu'il y a un enjeu vital dans tout ça, mais en même temps on s'arrête jamais à la théorie. On pense très précisément des formes justes, quelles sont les formes bonnes à adopter pour ces engagements. Et moi j'ai été vraiment très frappée par... Moi, je le disais tout à l'heure déjà, mais une sorte de beauté de cette intelligence politique et de la parole, de la puissance de la parole qui se déplie, qui se déploie, mais toujours en rapport avec l'action. Avec cette idée phare que l'on retrouve chez chacune et chacun des intervenants, c'est l'idée qu'on ne va pas se laisser écraser ou par la répression ou par la peur, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, mais on va se laisser justement empuissanter, hein, c'est un mot qui parfois revient, mais en tout cas pour employer peut-être une plus belle expression, la puissance d'agir qu'évoquait Thomas Lacoste tout à l'heure, à savoir l'amour des territoires habités et une grande conscience du vivant. Donc à chaque fois, et que quelles que soient les générations ici présentes, parce qu'il y a une dimension très intergénérationnelle, il y a en effet des savoirs qui sont partagés avec une circulation de ces savoirs. Donc on apprend beaucoup et on est comme l'un des protagonistes un peu plus âgé, qui regarde tout ça, qui observe et puis qui finalement prend part à ces mobilisations, surtout de jeunes, on est subjugué. Il y a une admiration quand même, quoi qu'on pense finalement. C'est pour ça que j'incite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à aller voir le film, y compris peut-être pour soit renforcer des a priori, mais je pense plutôt s'en délester.
Ouais, c'est un film d'ailleurs que vous avez tourné assez rapidement, Thomas Lacoste. Il y avait aussi un peu d'urgence dans la réalisation elle-même, qui fait écho d'ailleurs aussi aux initiatives politique même de ces luttes. Hein.
Oui, mais il y avait effectivement, comme on l'a dit, le film prenant source dans ce printemps 23 de forte criminalisation. on avait envie de libérer très très rapidement cet objet cinématographique,
ouais.
Et donc de rentrer effectivement dans une économie qui soit adéquate avec ce désir de pouvoir partager très très rapidement le film.
Comment ça s'est traduit pour vous concrètement alors
concrètement entre le début du développement et la fin de la post-production, il y a moins de 18 mois qui s'écoulent. Qui en temps cinématographique est vraiment très très peu. Pour des films comme ça, c'est plutôt 3-4 ans. Et là, il a fallu tous les efforts des équipes de Sister Production, de la bande passante, de Jours de Fête pour...
Tourner et monter en même temps, d'ailleurs, souvent pour...
C'est ça, exactement. Ouais. On a eu 3 grandes temps de tournage, et effectivement avec Gilles Volta nous montions au fur et à mesure en essayant de parier sur les puissances cinématographiques, en l'occurrence les puissances sensibles.
Ouais.
Rancière parlerait de partage du sensible, mais qui sont pour nous ces politiques sensibles sont des politiques de profondément égalitaire, où il s'agit de redistribuer les places et les parts de chacune, de chacun. En fait, comme si on était à la recherche, en fait, de formes esthétiques qui fassent écho à ce qui est au travail au sein des soulèvements, que ce soit au niveau de la composition ou même de la façon de d'habiter dans ce déjà-là qu'il côtoie au quotidien.
En tout cas, cette urgence et cette vitesse, on ne la sent pas du tout dans le film. Bien au contraire, parce qu'on va parler aussi du temps accordé à la parole et du choix aussi de mise en scène, qui est vraiment réduite à sa plus simple expression au service de la parole, précisément de vos protagonistes. Ça s'appelle Soulèvement. Ça sort mercredi sur les écrans et on en parle cet après-midi dans La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
J'ai commencé à faire un peu des stages dans des fermes. C'était à la fois des néo-ruraux qui étaient à la Confédération Paysanne, qui étaient politisés, qui avaient d'autres manières de faire, et à la fois des fermes à l'ancienne, vraiment, soit qui allaient arrêter. Par exemple, je suis allée dans une ferme qui m'a complètement remuée, qui était une ferme de... je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'était une ferme de Salers, du fromage Salers. Eux, ils faisaient la traite des vaches dehors, ils faisaient le fromage vraiment dans des gerles en bois, enfin, il y avait plein de choses. Et. Non, mais ça va aller, mais. Quand je suis fatiguée et que je parle de la fin du monde agricole, je chiale tout le temps, c'est horrible.
Extrait du film Les Soulèvements, qui sortira mercredi sur les écrans, dont vous êtes le réalisateur Thomas Lacoste. On en parle également avec vous, Ludivine Bantini, historienne des mouvements sociaux et des révolutions. Cette scène qu'on vient d'entendre, Thomas Lacoste, elle ouvre votre film. Et on se dit là immédiatement sur le parti pris, la mise en scène. Oh, là, il va falloir se poser pendant plus d'une heure et demie et vraiment être à l'écoute de ceux qui nous parlent, parce que vous faites vraiment un choix de la lenteur dans ce film.
Oui, de déployer... les forces sensibles du cinéma, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de dilater le temps, d'accueillir la parole à cœur de l'intime et de l'extime des protagonistes du film, de ces personnes, de tenter de faire un petit pas de côté par rapport à nos récitatifs militants, non pas qu'ils soient pas extrêmement, extrêmement importants à l'extérieur, ils sont déterminants, mais dans le cinéma, ils peuvent être mortels. Là, il s'agit de comment accompagner dans une espèce de maïotique d'entretien ces personnages à nous raconter à la façon dont ils s'ancrent sur ces territoires, dont ils vont porter les gestes, se mailler avec les humains et les non-humains qui les entourent, afin d'après de pouvoir habiter pleinement leur lutte. Et ça prend effectivement un peu de temps, et puis pour nous ça demande effectivement donc cette dilatation du temps, de poser les caméras,
ouais,
de sortir du mouvement qu'on voit que trop dans tout le cinéma français, et là de tenter de faire couler de la pensée dans nos plans, Et...
On est dans l'épure totale, là, quand même. Hein. Mais c'est quasiment un choix politique aussi, d'ailleurs.
Tout à fait.
À la lumière de ce que nous vivons quotidiennement, par exemple, avec la vitesse généralisée, la vélocité de nos réseaux sociaux, etc. Vous prenez le contre-pied de tout ça, et là, vous nous scotchez sur le fauteuil pendant 1h45, quoi.
Généralement, effectivement, dans nos médias, on a l'habitude, dans les médias mainstream, on a l'habitude, effectivement, de redécouper les paroles... De nos interlocuteurs, non pas pour entendre une phrase singulière de la personne qui est questionnée, mais pour que la réponse à la question soit adéquate avec celle de l'énoncé. Et si jamais ça ne suffit pas, on va rajouter une voix off pour bien expliquer au tout venant ce qu'il faut comprendre. Ben là, évidemment, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux spectatrices de rentrer en relation avec ces 16 personnes, mais aussi, et ça c'était une volonté, c'est à côté de tenter de, pour nous, de mettre à la même hauteur les visages et le paysage, donc de tenter de faire paysage des visages, mais aussi d'aller voir ce que peut nous raconter la frondaison de ce chêne pris dans le vent, ou qu'est-ce qu'a à nous dire l'œil de ce cheval témoin de Sainte-Soline, et vous voyez, donc peut-être d'expérimenter aussi d'autres places, d'autres parts.
Voir ces brins d'herbe dans un pied. Vous faites un plan à un moment, je ne sais pas, ça dure 10-15 secondes. On voit simplement une prairie qui est filmée en gros plan. Ludivine Bantini, j'aimerais vous entendre aussi sur cette espèce, sur ce rythme lent, ces silences, cette écoute ultra prolongée proposée par Thomas Lacoste. Qu'est-ce que ça raconte pour vous ?
Alors, je précise quand même qu'on ne s'ennuie pas pour autant et que 1h45, malgré tout, ça passe vite. Le mot qui me vient, c'est vraiment justesse. C'est la justesse de la forme, justement de cette forme sensible, qui est très adéquate, très adaptée au propos, à ce qui est défendu, l'idée de prêter attention, de prendre soin, l'idée que le temps doit pas être accéléré, doit pas être marchandisé. Et du coup, on prend le temps à la fois de laisser ces paroles se libérer, se déployer avec toute cette manière de réfléchir. Il y a une réflexion qui se déploie de cette manière. On a utilisé plusieurs fois ce terme de déployer, mais on a vraiment ce sentiment-là, qui n'est pas un étirement, mais qui est vraiment une temporalité largement politique. Il y a de l'émotion aussi, comme l'a entendu dans l'extrait que vous avez proposé, et qui en effet à la fois très déstabilisant sur le moment, mais très fort, parce qu'on comprend le choix de ne pas couper.
Ce qu'on a fait nous, malheureusement, parce que nous on a coupé pour le coup dans l'extrait, parce qu'il s'étire beaucoup plus.
C'est pour ça qu'il fallait voir le film, et pas seulement écouter l'émission.
C'est ça, parce qu'il s'étire beaucoup plus lentement à l'éditer.
Oui, c'est ça, mais en fait justement, il faut se départir de l'idée, par exemple, que les émotions seraient opposées à la rationalité, à la raison, à l'intelligence. Non, il y a une intelligence émotionnelle, et cette intelligence émotionnelle, elle est aussi profondément politique, elle est pensée. Donc cette jeune femme, quand elle dit qu'elle pleure, quand elle évoque la fin du monde agricole, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de deuil, il s'agit de perte, de déperdition, d'un monde qui est en train d'être détruit et qu'il s'agit justement de rendre plus vivant. Et donc les images nous laissent aussi le temps d'écouter la nature, d'être regardé, pas seulement de regarder, mais Thomas Lacoste parlait de cet œil du cheval. Bon, ça fait partie de ces très belles images. On a le sentiment d'être regardé par ce cheval et pas seulement d'être extérieur. Et donc on est en quelque sorte pris par la force, la beauté de cette nature et dès lors aussi la beauté des propos qui sont avancés. Pour à chaque fois, ce qu'il dit, c'est pas uniquement protéger le vivant, mais c'est lui permettre de se défendre. Ouais. Et ça, c'est extrêmement bien rendu dans le film.
Thomas Lacoste, c'est évidemment très ambitieux aujourd'hui de sortir un tel film, parce que je rappelle qu'il sort sur les écrans, donc au cinéma, mercredi. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles autour de ce type de cinéma, à la fois politique, on le disait, mais aussi dans sa forme, dans sa lenteur?
Alors des obstacles, non, pas en salle en tout cas, parce que on a commencé à faire des avant-premières. Effectivement, les salles jouent à guichet fermé et ce qui.
Mais je pensais plutôt aux distributeurs, ceux qui financent en amont.
Alors voilà, donc mais effectivement, donc dans les salles tout se passe bien et après c'est vrai que ça a été vraiment. Alors l'ensemble de mes films sont pas faciles à financer, mais celui-ci tout particulièrement, ça a été très très compliqué. On a c'est pourquoi Sister Productions et Julie Paration ont fait appel aussi à la bande passante et au service de Lucie Cormand pour aller chercher lever des fonds privés via des fondations pour nous aider à rentrer dans notre économie d'urgence dans laquelle le film s'inscrivait pour rentrer en tournage. Parce qu'effectivement, il y avait très très peu de guichets, à part la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a aidés dès le début. On a attendu les aides les plus sélectives du cinéma français, l'avance sur recette après la réalisation, donc il n'est plus une aide sur dossier, mais qui juste sur pièce le film,
ouais. Pour donc avoir... il faut déjà arriver à cette étape. Hein.
Voilà, avoir de l'argent public. Et donc, on sent que les temps sont déjà à la collaboration avec La Nuit qui vient.
Est-ce que, c'est-à-dire...
À la profondeur de La Nuit qui vient.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans bon nombre de nos services publics, on se prépare à collaborer, comme on a pu le faire à de nombreuses époques avec la profondeur de La Nuit qui vient. Ça ne veut pas dire que dans d'autres lieux, par exemple à France Télévisions Cinéma, des personnes ne sont pas extrêmement courageuses et ont décidé, ce qui n'était pas du tout évident, parce qu'ils produisent au niveau de France Télévisions Cinéma que très peu de documentaires français, ils ont décidé de préacheter le film. Alors finalement, on se réjouit à l'idée que le service public
investisse encore, mette de l'argent encore dans de tels projets.
Ça a été extrêmement important, effectivement, dans notre structuration de la production du film, leur apport.
Ludivine Bantigny, on apprenait la semaine dernière que la cour d'appel de Poitiers confirmait les condamnations des militants de Sainte-Soline pour avoir organisé donc une manifestation interdite en octobre 2022. Alors des peines moins lourdes qu'en première instance, mais une condamnation maintenue et puis une première historique parce qu'il y a des responsables syndicaux qui ont été sanctionnés pour l'organisation donc de cette manifestation. Ça vous inspire quoi, vous, cette décision ?
Je reprendrai volontiers la formule que vient d'employer Thomas Lacoste sur la profondeur de La Nuit qui vient. C'est un monde de plus en plus autoritaire, de plus en plus répressif. Et là encore, j'insisterai sur le contraste terrible entre cette privation qui concerne les libertés publiques, qui concerne l'organisation, notamment, enfin que des syndicalistes puissent être condamnés pour l'organisation, notamment de telles marches, de telles manifestations. Ça me semble vraiment très grave, mais pas seulement pour les personnes concernées, mais pour nous tous et toutes, en tant que nous sommes directement les protagonistes aussi de ce rapport au vivant. Et donc la profondeur de La Nuit qui vient, sans vouloir être trop dramatique ou grandiloquente, mais moi je parlerai volontiers de fascisation. Voilà, je pense qu'on est dans une ère de fascisation lente, mais tenace, très ferme. Et donc les personnes qu'on voit dans le film, voilà, elles sont tournées vers l'idée qu'il s'agit de protéger un monde qui sinon va disparaître. Et donc il y a cette c'est un abîme entre cette dimension là qui nous concerne tous et toutes et cette criminalisation. Donc le monde syndical, le monde associatif, mais voilà, on devrait tous être vent debout contre de telles condamnations. Et on a bien vu que ça a été rappelé tout à l'heure que le Conseil d'État a reculé face y compris à la pression, des formes d'intimidation qui venaient du ministère de l'Intérieur quand il s'est agi de tenter de dissoudre le mouvement des soulèvements de la terre. Mais on est face à des avancées qui me paraissent extrêmement graves, extrêmement dangereuses pour nous tous et toutes, et pas seulement les directement concernés par ces condamnations, alourdies à certains égards pour ce qui concerne
la partie financière.
Exactement, les amendes.
Les amendes à payer. Thomas Lacoste, avant de marquer une petite pause, le face caméra pour les personnes que vous interrogez, dans ce contexte-là d'ailleurs, est-ce que c'est risqué pour ces personnes à cause précisément de la surveillance policière? Parce que beaucoup témoignent avoir été surveillés pendant très très longtemps, l'être encore d'ailleurs pour certains ou certaines. Il y a une anonymisation en tout cas au niveau des noms, mais les visages on les voit bien.
Oui, oui. Alors, il y a une anonymisation minimale, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne donne pas ni les noms, ni les adresses, l'organigramme des soulèvements, bien qu'ils en parlent beaucoup dans leur excellent livre « Première secousse » aux éditions La Fabrique, qui, faut le signaler, existe aussi en podcast, ce livre. Mais c'est vrai que pour eux, c'était compliqué, parce que moi, je suis extérieur au mouvement. Eux, effectivement, dans ce printemps 23, découvraient l'ampleur des moyens de ces polices antiterroristes, ces moyens de surveillance. Ouais. Donc évidemment, l'élan... pour venir à un film, dans un film, participer à un film face caméra à visage découvert, ce n'était pas la première chose.
Beaucoup ont refusé ou pas d'ailleurs ?
Non,
parce qu'on voit les 16 que vous avez interrogés, mais est-ce qu'il y en a eu beaucoup qui ont dit non avant ?
Il n'y a eu aucun refus, non, ça s'est très très bien passé de ce côté-là. Et ce qui était très beau, c'est au mois d'octobre 23, voilà, au moment où le mouvement nous a offert accès à l'ensemble de leurs archives, à la fois écrites, audiovisuelles, avec des images fixes et en mouvement. Et ça marquait l'entrée dans un régime de confiance suffisant et nécessaire pour se lancer en cinéma.
Soulèvement, c'est mercredi sur les écrans. On vous retrouve dans un instant Thomas Lacoste et Ludivine Bantini avec les questions, les messages de toutes celles et ceux qui souhaitent dialoguer avec vous dans un instant. Franceinter.fr, la page de La Terre au Carré, bien sûr, et l'appli Radio France pour vous entendre vocalement.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
L'idée, c'était de venir au plus près de la bassine et avec des cerfs-volants au bout duquel il y avait des sortes de boules de terre remplies de lentilles d'eau, d'essayer de contaminer l'eau de la bassine de manière la plus propre, naturelle possible, tout en désarmant la bassine. Et l'idée, c'était que ces lentilles, en fait, se développent très vite et peuvent venir bloquer la pompe de la bassine. Et ce que ça a produit, et là où ça a marché, c'est que ça a créé une perplexité totale chez les gendarmes, qui ne comprenaient pas du tout ce qui était en train d'arriver, juste qu'ils comprenaient qu'ils étaient en train de se faire avoir, et une joie et un enthousiasme. Vraiment, les gens sautaient de joie comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, quoi.
Tout ça avec des lentilles d'eau, extrait de votre film Soulèvement, Thomas Lacoste, mercredi donc sur les écrans. On en parle également avec vous, Ludivine Bantini, qui était historienne. Cet extrait montre bien qu'il y a aussi la créativité qui est un des ingrédients absolus dans la lutte, en tout cas.
Oui, oui, c'est ça, c'est cette inventivité, et puis le fait de miser sur la joie. À un moment, il est question du fait que, voilà, on peut perdre dans ces mouvements, mais c'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir appris des choses collectivement, d'avoir transmis, d'avoir partagé aussi des moments, même si en fait le but c'est quand même de lutter contre des projets destructeurs, contre tout ce qui est ramené à du saccage, vraiment des ravages. Et moi, ça me fait aussi penser à l'inventivité de 68. Et c'est pas sans lien d'ailleurs. Il y a à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, sur la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il a beaucoup été question des communs, des communes, y compris la commune de Nantes en 1968, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des partages solidaires entre le monde paysan, les ouvriers et ouvrières en grève, le monde des étudiants et étudiantes mobilisés, avec cette même idée qu'il y a de la joie, comme disait l'autre dans la chanson, il y a de la joie et
ça fait partie des héritages dont on parlait tout à l'heure.
Oui, je pense qu'il y a des généalogies assez nettes et une dimension intergénérationnelle qui est aussi très présente dans le film.
Thomas Lacoste, on peut parler aussi d'une sorte de cartographie sensible, parce qu'il y a toute une géographie des luttes aussi dans votre film, et c'est ce que vous avez encore voulu montrer à travers cette diversité et ces territoires en lutte.
Tout à fait. Une géographie à la fois humaine et une géographie des luttes dont bon nombre sont non vues, non sues, même si certaines on s'appuie évidemment sur des très charismatiques comme les Mégabassines ou la 69, mais d'autres sont beaucoup moins éclairées. Il y a avec cette idée, oui, de rentrer en voyage. Je repense à votre ouverture, mais peut-être modestement en Odyssée, dans une Odyssée qui part vers à la rencontre d'une commune humanité qui va se jouer des bassins versants en partant de ces glaciers, descendre dans les vallées.
Il y a un fil narratif autour de ces territoires.
Hein. Exactement. Traverser les plaines, rencontrer les hauts plateaux avant de se jeter dans les hautes lumières océaniques. Donc il y avait effectivement cette idée-là, témoigner de ce maillage incroyable que tisse ce mouvement sur l'ensemble de notre territoire, montrer au combien ils ne sont pas hors sol. Tout ça est très très ancré. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que cette puissance qui tienne de cet épaississement de leur existence et le fait. Parce que c'est la dernière extrait là qui m'y fait penser. Après les lentilles d'eau, enfin, ou juste avant, pardon, il dit que au cœur de, enfin, que dans le mouvement, dans ces luttes, il y a un mot extrêmement important, c'est amour, et qu'on arrive à le, c'est un mot qu'il arrive à conjuguer au cœur de la conflictualité. Et ça, je trouve ça extrêmement beau. C'est notre façon aussi d'habiter, vous voyez.
Ludivine Bantini, précisément, le fait que ces luttes soient ancrées dans le territoire, est-ce que ça donne une force supplémentaire par rapport à des luttes plus abstraites comme celle, par exemple, du mouvement climat, où là, on est sur une idée aussi qui nous projette sur des décennies en avant et qui est presque beaucoup plus difficile à matérialiser. Est-ce que là, justement, le territoire, les pieds dans le sol, c'est beaucoup plus puissant pour avancer sur les luttes ou pas?
Oui, enfin, je pense qu'il y a une complémentarité et l'un n'irait pas sans l'autre. S'il n'y avait pas eu tous ces mouvements de jeunesse, notamment, mais qui sont aussi intergénérationnels, il n'y aurait pas forcément eu les soulèvements de la terre. Enfin, tout ça est très entremêlé. Mais c'est vrai que, aussi bien dans les soulèvements que dans Soulèvement, le film, on voit ce dont il s'agit, c'est-à-dire un glacier qui disparaît, une colline qui disparaît, des nappes phréatiques qui sont percées, des forêts, des terres habitables qui sont artificialisées. Donc, en effet, moi, ça me fait penser aussi à la situation dont on commence un peu à parler davantage dans les médias et notamment dans la presse. C'est ce qui se passe en Cisjordanie. Moi, je connais assez bien certaines coopératives où justement il s'agit de protéger les terres contre la prédation, contre la colonisation. Il y a aussi cet amour et cette mise en commun. Coopérative comme Al-Sanabel, l'idée de cultiver, parce que c'est une forme de résistance aussi, la culture de la terre, la protéger et protéger un certain commun par rapport à des formes de colonisation prédatrice.
Allez, on passe aux questions. Allez, plusieurs messages pour vous sur franceinter.fr. Guillaume nous dit, est-ce que les éco-terroristes d'aujourd'hui seront vus demain comme des résistants se battant pour la justice? Thomas Lacoste, qu'est-ce que vous lui répondez?
On l'espère bien, en tout cas, c'est notre devoir de nous tenir à leur côté pour faire en sorte que cette jeunesse et ce mouvement intergénérationnel porté par la jeunesse puisse être à minima préservé et puisse continuer à persévérer dans son être collectif. Que derrière, peut-être, derrière cette figure de l'éco-terroriste, cette belle construction chimérique, on a un autre mouvement qui me semble beaucoup plus conséquent, qui est une tentative d'imposer des éco-terrorisés au sein de ces mouvements, de chercher à les éco-terroriser, mais aussi de tenter d'éco-terroriser, de tenir à distance toute une population qui pourrait venir en appui à ce mouvement.
Oui, et je pense que le parallèle qui est fait par cet auditeur, très justement, c'est ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, où les résistants et résistantes étaient appelés par le régime de Vichy, notamment, des terroristes. Et donc là, ce qui est pensé, c'est une forme de, non pas seulement de désobéissance civile, mais de résistance civile. Et donc c'est toute la question de la légitimité de ces mouvements qui est posée, pas seulement la légalité, mais celle de la légitimité.
Priscille nous dit, j'ai vu votre documentaire en avant-première à Vannes, ça m'a fait un bien fou, j'avais de l'appréhension car convaincu, mais souvent vaincu par le système. Les protagonistes, a écrit Priscille, pour la plupart des jeunes gens, sont d'une lucidité et d'une intelligence dans leurs propos qui est formidable et belle. Ce film est un message d'amour et d'espoir. Merci à vous, Thomas Lacoste, dit Priscille. Patrice dit, merci également pour ce film que j'ai vu à Marseille, magnifique et instructif. Juste une question concernant le choix de la dernière séquence sur Bolloré, qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, merci pour votre film. Alors, Bolloré, il y a une armada qui était partie vers son île du Morbihan.
L'île de Locke. Pourquoi Bolloré à la fin? Mais pour deux raisons qui me semblent extrêmement importantes. La première, c'est que Excusez-moi,
sur la dernière séquence.
C'est parce que c'est un retour. On sort du film. On a besoin d'un retour au réel. Et effectivement, il y a un travail militant. Il y a un travail politique. Il y a un travail organisationnel à faire. Et deuxièmement, ce qui pour moi était extrêmement important, c'était de souligner que ce mouvement, qui est connu pour sa lutte contre l'accaparement des terres, l'accaparement de l'eau, l'artificialisation des sols, travaille aujourd'hui à un soulèvement antifasciste dont on aura conséquemment besoin vu la profondeur de cette fameuse nuit qui vient. Alors, avec l'idée que, évidemment, là, nous ne jouons pas du tout sur la peur du futur, mais sur le courage du présent.
Justement, est-ce que pour vous, Ludivine Mantini, ce sera ma dernière question, il y a aussi l'idée d'un laboratoire d'idées politiques là dans ce film aussi, pour nourrir peut-être les luttes à venir ?
C'est ce qu'expriment très bien les protagonistes, parce que, à leurs yeux, les différentes mobilisations sont intimement liées. Par exemple, il est question d'un terme que peut-être certains auditeurs et auditrices ne connaissent pas encore très bien, qui est l'antivalidisme, c'est-à-dire le validisme, c'est le fait que la société, elle est normée par...
Pour les personnes valides.
Voilà, pour les personnes valides. Et donc, il y a une manière de révéler l'état de la société et comment on peut mieux vivre. Comment nous pourrions vivre, disait un penseur socialiste libertaire, William Morris, à la fin du 19e siècle. Comment nous pourrions vivre ? Et c'est une question majeure qui est posée par ce mouvement et dans le film, et en articulant beaucoup de thèmes qui leur sont chers, qui peuvent nous être chers à nous aussi.
Un dernier message d'Anne-Marie Bravo, réalisateur pour son film vu en avant-première il y a quelques mois au cinéma Utopia. J'ai aimé entendre les réflexions tellement intelligentes de ces indignés. J'ai aimé qu'ils rendent ces indignés tellement attachant quand on ne parle d'eux que comme des casseurs. Et puis il y aura d'autres avant la sortie d'ailleurs. Mercredi, il y aura d'autres avant-premières. Ce soir à 20h, vous serez à Fontainebleau, Thomas Lacoste. Il y aura une avant-première demain à Clermont-Ferrand. Et puis donc la sortie mercredi avec également le 14 février, une rencontre au Grand Action à Paris avec Salomé Sacquet qui viendra pour témoigner aussi autour de votre film. Et puis Ludivine Montigny, je renvoie sur un de vos derniers ouvrages, L'Ensauvagement du Capital aux éditions du Seuil. Ou petite histoire des grèves et des soulèvements populaires chez Bayard. C'était il y a 2 ans. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci beaucoup à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier aujourd'hui, Lucie Sarfati pour la coordination, Loïc Frapsos à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.